Vous êtes où, monsieur?
Juste une question. Camus et la religion. Se situe-t-il par rapport à la religion?
Voilà une belle question. Camus disait très précisément qu'il n'était pas athée. Il a fait ce qu'on appelle un master maintenant sur Saint-Augustin et Plotin. Saint-Augustin était évêque d'Hippone. Hippone était en Afrique du Nord. Je pense Tunisie aujourd'hui, enfin, Plotin était un philosophe néo-alexandrin, donc égyptien. Donc pour lui, c'était deux façons d'être philosophe et africain. Et il a été intéressé par ces deux-là. C'est-à-dire, il disait que la Méditerranée, elle contaminait, au bon sens du terme, qu'elle contaminait tout ce qu'elle touchait. Et que le christianisme, par exemple, il dit même ça du fascisme, il dit quand le christianisme est méditerranéen, c'est pas la même chose que quand il est latin. Et par exemple, un christianisme à la Saint-Augustin, c'est pas du tout le christianisme de Luther, de Calvin. Et on voit qu'il y a une espèce de pulsion de mort de ce côté-là, qui n'est pas défendable. Donc effectivement, tout ce qui était luthérien, tout ce qui était austère, ça n'intéressait pas beaucoup. En revanche, une espèce de christianisme païen, il ne faut pas se forcer trop, le christianisme est complètement païen. Enfin, si Jésus, qui est pour moi un personnage conceptuel qui n'a jamais existé, mais est censé naître le 25 décembre, c'est parce qu'on a le solstice d'hiver, donc c'est la fin de la nuit la plus longue, le début de la lumière qui revient. Si Pâques se retrouve aussi sur des logiques de solstice, d'équinoxe, etc., c'est parce que, enfin bon, le paganisme a été totalement récupéré par le christianisme, et quand Constantin prend le pouvoir, c'est plus facile pour lui de dire qu'on conserve les vieilles fêtes païennes, mais qu'on en change le contenu, et plutôt que de dire on va arrêter de fêter le solstice d'hiver, il dit non, le solstice d'hiver, c'est maintenant, c'est la date de naissance de Jésus. Donc l'affaire est réglée, on garde la fête, et puis les gens sont tous contents, et le christianisme peut s'installer. Donc il y a un paganisme dans le christianisme qui plaît à Albert Camus. Il ne croit pas en un dieu qui déciderait des choses. C'est pas un déiste, c'est pas un panthéiste, c'est pas un théiste non plus. Le déiste dit Dieu existe, il a créé le monde et il se moque du fonctionnement du monde. Le théiste dit Dieu a créé le monde et il est dans le moindre détail du monde. C'est-à-dire si un enfant meurt, c'est que finalement Dieu l'a voulu. Il y a des raisons pour ça, mais les voies du Seigneur sont impénétrables, mais il y a des raisons pour ça. Non, il n'est pas sur ces logiques-là. En revanche, on pourrait dire qu'il est panthéiste. Et il y a chez Plotin une philosophie tout à fait particulière qu'on appelle la philosophie des hypostases. Il y aurait une procession des hypostases et vous auriez trois temps qui nous conduiraient vers l'un bien, appelons ça comme ça. Alors certains disent l'un bien c'est Dieu, donc ils croyaient en Dieu. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a une espèce d'esprit du monde qui serait le logos du monde dans lequel on devrait pouvoir auquel on devrait pouvoir s'identifier, dans lequel on pourrait jouir. Et il y a chez Plotin des extases, trois ou quatre dans une existence, nous dit Porphyre, ça fait pas beaucoup, pour une vie de mysticisme. Et Camus est assez plotinien, c'est-à-dire qu'il ne croit pas dans le dieu des chrétiens, mais il croit que peut-être cette espèce de divinité du monde, elle est à prendre à bras le corps. Donc il dit expressément « je ne suis pas athée ». C'est clair, comme chez Camus, mais on ne peut pas imaginer qu'il soit catholique. Il y a dans le catholicisme quelque chose qui lui déplaît souverainement. Alors quand vous prenez la Bible, la peste, vous avez dans la peste un prêtre qui, au moment où la peste arrive, fait un sermon en gerbe et explique que la peste, c'est la faute des hommes. Si la peste a lieu, c'est parce que Dieu se fâche. On a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Quoi, on n'en sait rien, mais probablement, on n'est pas assez pieux, on n'est pas assez chrétien, on ne vit pas assez son christianisme, donc Dieu se venge et envoie la peste. Et puis au fur et à mesure, c'est tout le génie de Camus dans ce roman, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas définitivement comme ça, le curé qui croit à la Providence. C'est un curé qui évolue. D'abord parce qu'il voit l'enterre des gens, parce qu'il voit l'épidémie, parce qu'il voit la mort d'un enfant. Il y a un passage terrible sur la mort de l'enfant du fils du juge. Et la description chez Camus est terrible. Et là, ça ne marche pas. La mort d'un enfant, ça ne marche pas. C'est ce qui fait que... Voilà. Et il devient résistant. Enfin, il devient... Bon, j'utilise le mot parce que c'est une vraie métaphore contre le fascisme. Donc... Il y a eu des gens qui nous ont expliqué, les pétinistes nous ont expliqué que s'il y a eu la défaite, c'est parce que finalement on l'avait bien voulu et qu'on n'avait pas été assez pieux, pas assez catholique, et qu'on n'avait pas assez travaillé, qu'il y avait eu le Front populaire et que les gens avaient préféré les vacances, les congés payés, alors qu'on est là pour travailler, pour souffrir, etc. Et que finalement on l'a bien voulu. Et puis il y a des résistants qui ont dit non. Et donc, dans la peste, le curé démarre comme un catholique orthodoxe, en nous disant « la négativité, c'est Dieu qui l'aurait voulu », et finit comme un résistant, en disant « peut-être que Dieu l'a voulu, finalement, on n'entre pas dans le détail, mais nous, les hommes, nous pouvons faire quelque chose contre. » Et il s'engage, et il devient un résistant dans cette aventure. Donc, Camus avait le sens du sacré, ça c'est sûr. Il a eu des débats avec Mauriac, qui était un catholique qui, à l'époque, lui, a défendu une position particulière au moment de l'épuration. Il était contre l'épuration. Mauriac, il avait raison, on s'était occupé un peu de lui et de ce qu'il avait fait au début de la guerre, il aurait pu la mériter, donc effectivement, il avait plutôt intérêt à être contre. Mais il a démarré pétainiste et il a fini gaulliste, comme beaucoup. Donc Camus, lui, il a été résistant dès le départ et il a perdu des amis. Et des amis de ses amis ont été massacrés par la Gestapo. Et donc il dit, mais on ne peut pas pardonner à la Gestapo. Donc il faut que ces gens la paient quand même. L'épuration, c'est normal. Voilà, les gens ont commis des erreurs et alors on doit pouvoir faire payer à ces gens-là. Et puis il évolue, Camus. Et il dit finalement, il y aura un débat là-dessus, ça sera chez les Dominicains. Il dit, et c'est rare, hein, des philosophes qui disent « je me suis trompé ». Mais Camus dit, finalement, Mauriac avait raison, il faut de la miséricorde. Il faut de la miséricorde, il faut du pardon, ça sert à rien, la vengeance, le ressentiment. L'expression de la justice était un petit peu dans des logiques de ressentiment. Il vaut mieux plutôt que les gens soient dans pardon, soient dans ces logiques-là. Il le dit chez des dominicains, donc c'est aussi une façon de faire savoir que l'option chrétienne, elle est plus juste que celle qui était la sienne à cette époque-là. Donc il y a un dialogue entre Camus et les catholiques, c'est pas un athée, c'est quelqu'un qui a le sens du sacré, c'est quelqu'un qui pense que le catholicisme, quand il est méditerranéen, est probablement plus défendable que le catholicisme quand il est latin. C'est quelqu'un qui cherchait, probablement, qui n'aurait sûrement pas trouvé Dieu, ça c'est clair, mais qui a passé sa vie à pratiquer les vertus de Jésus, quoi. C'est-à-dire les vertus de douceur, de tendresse, etc. Enfin, le Jésus des évangiles était un philosophe qui ne pouvait qu'agréer à Albert Camus. Donc, c'était pas un athée, c'était pas un anticlérical, ça c'est clair, c'était pas un bouffeur de curé, c'était quelqu'un qui pensait que les catholiques avaient intérêt à retrouver quelque chose qui s'était un peu trouvé perdu, c'est-à-dire l'amour de la vie. Il pensait que le christianisme était trop amour de la mort, imitation du Christ, de ses plaies, de ses douleurs et de ses souffrances, de la passion, et qu'il aurait mieux valu pour les catholiques qu'ils fussent des imitateurs du Jésus des évangiles et des vertus des évangiles. Donc voilà pourquoi quelques-uns ont un peu forcé le trait, quelques catholiques ont un peu forcé le trait en disant, un peu comme Rimbaud, avec, un peu comme la sœur de Rimbaud avec son frère, avec Rimbaud, en disant que, bon, en gros, il n'était pas loin du catholicisme et que c'était une espèce de compagnon de route. Je ne crois pas. Il faut lire Nos. Nos est quand même un grand poème panthéiste et en ce sens très, très antichrétien.
Malgré la popularité de cet écrivain, c'est vrai qu'il est resté longtemps finalement dans les CDI et dans les salles de professeurs, et c'est finalement un peu grâce à vous qu'il s'invite dans le débat politique, et je n'ai pas créé un petit peu la culture actuelle, mais rares sont nos hommes politiques qui se recommandent de ce courant de pensée de Camus, donc bon, pourquoi? Et par rapport, si vous voulez, à une lecture d'une phrase dans un carnet, mais je ne me rappelle plus de la date, son aversion par rapport à la domination, par rapport au pouvoir, par rapport à la puissance, il avait écrit « Ceux qui ont une grandeur à eux ne font pas de la politique ». Expliquez-nous un petit peu la grandeur.
Oui, alors Jean-Yves Guérin a fait un très beau travail sur les gens qui se sont réclamés de Camus, mais plutôt dans les années 70, donc c'est un personnel politique qui n'est plus forcément toujours là. Camus a été utilisé par deux fois, je pense. Il y a deux moments dans l'histoire depuis 50 ans où on a utilisé Camus. La première, c'est avec les nouveaux philosophes. Enfin, la première, c'est avec la critique antitotalitariste, la critique anti-marxiste et anti-communiste. Et la deuxième fois, c'est avec les nouveaux philosophes. C'est-à-dire avec Bernard-Henri Lévy, 1977, La barbarie à visage humain. Alors, on prélève chez Camus l'antitotalitarisme de gauche en oubliant qu'il était un homme de gauche. Parce que BHL a juste un intérêt, c'est défendre le libéralisme et de défendre une gauche libérale en disant quand la gauche est de gauche, elle est problématique, quand la gauche est de droite, elle est défendable. Donc ça sert à ça, Camus, chez Bernard-Henri Lévy et dans les nouveaux philosophes. Donc il y a eu une gauche non marxiste qui s'est intéressée à Camus, c'est la CFDT, par exemple, la CFDT de la belle époque, d'Edmond Maire, par exemple, qui était autogestionnaire, qui était anticommuniste, anti-bolchevique, anti-marxiste-léniniste, qui était solidariste, en courant du 19e siècle de Charles Gide, et qui s'est illustré, par exemple, dans les mouvements chez Lip, les mouvements de grève avec Lip. Et Camus a servi beaucoup à cette époque-là, mais il a servi comme une conscience de gauche anti-marxiste. C'était vrai, mais c'était un peu court. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aujourd'hui dire une chose qui n'a jamais été dite, c'est qu'il a vraiment formulé un socialisme anarchiste pour aujourd'hui et pour demain. On n'a jamais essayé le socialisme anarchiste. On a essayé avec la Commune, ça a été noyé dans le sang. Ça a été essayé avec l'Espagne, ça a été noyé dans le sang, et puis rien d'autre. Une espèce de pseudo-commune avec mai 68, un peu, mais qui s'est un peu diluée dans ce que nous savons, c'est dans le triomphe du consumérisme. Mais le socialisme libertaire n'a jamais été vraiment utilisé. Alors des gens comme Rocard se sont réclamés de Camus, des gens comme Delors se sont réclamés de Camus, parce qu'effectivement, il y avait cette espèce de présupposé social-démocrate. Social-démocrate anticommuniste, bon ben voilà, ça suffisait pour qu'on s'en réclame. Guillaume, par exemple, qui a été un des ministres de Mitterrand, maire socialiste de Clermont-Ferrand, a été l'un des initiateurs de la première édition Pléiade de Camus. C'était quelqu'un de bien, Guillaume, mais l'édition n'était pas bonne du tout. Elle était faite en un volume roman, un volume essai, un volume théâtre, et c'était un peu confus. Il y a une nouvelle édition qui est totalement chronologique et qui est nettement meilleure, mais Camus a beaucoup servi dans un combat anti-communiste français dans les années 70, et c'est dommage parce que les anarchistes ne s'en sont jamais servis. Alors les anarchistes, c'est une nébuleuse tellement complexe aujourd'hui, il y a des défenseurs du terrorisme qui défendraient Ravachol, la bande à Bono, la propagande par le fait, et puis vous avez des végétariens, pacifistes, décroissants, etc., en passant par des mutualistes, et puis des individualistes à la Stirner, tout est possible. Mais moi, je pense qu'on pourrait défendre aujourd'hui un socialisme anarchiste libertaire en disant mais il y a moyen aujourd'hui de défendre concrètement ces choses-là avec des projets. Sur cette phrase que vous citez, et vous avez raison, c'est une idée nietzschéenne. Nietzsche dit quand on est un homme de qualité, on ne fait pas de politique. Les hommes qui font de la politique ne sont pas des gens de qualité. Et il a assez raison. Et il faut vouloir quand même tuer père et mère pour faire ce genre de métier, de profession, passer la morale par-dessus bord. C'est même d'ailleurs devenu une espèce d'évidence. Aujourd'hui, la morale et la politique, c'est pas la même chose. J'ai répondu à un journal l'autre jour qui s'étonnait que je puisse dire que c'était la même chose pour moi, morale et politique. C'est pas parce que Machiavel a dit que c'était deux registres différents qu'il faut aujourd'hui dire que ce sont deux registres différents. C'est ce que disent tous les patrons qui considèrent que quand on peut délocaliser et mettre par terre une usine avec 500 ouvriers, tuer un village ou une commune, etc., bah, l'économie a ses raisons, que la raison ne connaît point, et que la morale, c'est autre chose. Non, c'est la morale et la politique, ça devrait être la même chose. Et Camus fait la démonstration que c'est possible, morale et politique. Et non pas les deux instances séparées en disant « Ah mais oui, mais non, vous ne connaissez rien à l'économie, il y a des moments où on est obligé de faire des choses immorales, parce que... » Non, moi je ne crois pas. Je pense qu'on peut faire de la morale et de la politique, qu'on peut faire une politique morale. Simplement, on n'a pas forcément pouvoir, hein, ça c'est clair. Mais l'exercice de la politique n'est pas forcément dans la politique politicienne. On dit souvent, vous devriez faire de la politique, mais j'en fais tous les jours. C'est pas en étant conseiller général, conseiller municipal, que je ferai mieux de la politique. Créer une université populaire, l'animer, venir vous voir, vous rencontrer, dire des choses, débattre, puis après les idées vont, viennent, circulent, etc. C'est faire de la politique. Travailler dans un jardin de réinsertion comme je le fais, travailler à la construction d'un restaurant de réinsertion dans ce jardin, animer des choses dans ce jardin, enfin, en créant une université populaire du goût pour que des gens puissent goûter des produits auxquels ils n'accèdent jamais, etc. C'est aussi faire de la politique. Et c'est aussi faire de la politique concrète, de manière libertaire, ici et maintenant, sur le terrain. Si on peut vraiment éviter les retours pour je ne sais pas qui a le micro pour l'instant, mais vous posez par terre, parce qu'autrement, c'est pas possible. Et là, on peut vraiment faire de la politique autrement. Et Camus, en ce sens, c'est quelqu'un qui donne un exemple, qui montre que dans des périodes où c'est facile, la montée des périls, les fascismes européens, l'occupation française, la guerre d'Algérie, la guerre froide, qui pendant tous ces moments-là a montré qu'on pouvait faire de la politique et de l'art en même temps, tout en faisant la démonstration que c'était tenable et défendable, je pense que c'est un modèle. Maintenant, quand on se réclame de Camus, j'ai plutôt l'impression qu'on prend en otage. Quand Sarkozy veut emmener Camus au Panthéon, moi j'avais fait un texte dans Le Monde, alors évidemment, comme Le Monde le déteste, ils avaient changé le titre et le titre était devenu « Devenez Camusien, monsieur le Président », j'ai jamais mis ce titre-là. J'ai mis « Le Panthéon est loin de Tipaza ». Pas du tout, le Panthéon est loin de Tipaza. Simplement, vous changez le titre et vous changez le contenu de votre article. On peut très bien enterrer une deuxième fois un mort. Le Panthéon, c'est fait pour ça. Mais moi, je pense que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Camus aujourd'hui, quand on est président de la République, on n'est pas obligé de se réclamer de Camus. Mais si on s'en réclame, alors qu'on soit camusien, ça me paraît évident. Et être camusien, justement, c'est tenir à bonne distance, c'est-à-dire dans un sage équilibre, la politique et la morale, l'éthique et l'économie, et de dire non, peut-être que là on gagnerait de l'argent, mais on y perdrait notre âme. Peut-être qu'on gagnerait les élections, mais on y perdrait notre âme aussi. Je préfère garder mon âme et perdre les élections. Et je pense que quelqu'un qui tiendrait ce discours-là pourrait gagner. Il n'y a pas grand monde. Il y a René Char, qui est impeccable, qui est l'ami de toujours, et qui est une très belle correspondance entre les deux personnages. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de... Je pense simplement qu'il a très vite eu un succès de librairie, et que vous êtes le roi chez un éditeur quand vous avez des succès de librairie. Ça ne veut pas dire qu'il vous soutient, ça veut juste dire qu'il y a le directeur des finances qui trouve que vous êtes un auteur terrible, extraordinaire, et que... et qui vous déroule un tapis rouge. Donc Camus, il a fait un succès de librairie avec l'étranger, un succès de librairie avec La Peste, et Gallimard a trouvé que c'était très bien d'avoir Albert Camus dans son écurie, mais il avait en même temps Drieux-La Rochelle, et puis un certain nombre d'autres personnages qui collaboraient en même temps. Gaston Gallimard a été un personnage assez exécrable sur ce terrain-là. Je pense que ce qui a fait le succès de Camus, c'était son lectorat, et qu'il n'a jamais eu avec lui de gens utiles. Évidemment, il y a eu Jean Grenier, mais c'était tout au départ. Il y a eu Charlot, qui était un petit éditeur qui a fait de très belles choses à Alger, qui a publié les premiers textes de Camus, qui a cru à Camus à l'époque où Camus n'était pas encore Camus. Et puis, il y a eu la Constance de Gallimard. C'est sûr qu'il n'a jamais cherché d'éditeur, qui a tout publié chez Gallimard, que Gaston Gallimard l'a soutenu. Ensuite, il est mort avec Michel Gallimard, hein, dans la voiture. Donc, il avait le soutien de cet éditeur-là, mais l'éditeur le soutenait. Bon, il y avait de l'affection de la part de Michel Gallimard, ça c'est sûr. Mais l'éditeur le soutenait parce que c'était une bête d'édition, quoi. C'était quelqu'un dont on ne pouvait pas se passer. Quant au prix Nobel, c'est toujours compliqué. On ne sait pas comment ça marche, le prix Nobel. Pourquoi est-ce qu'il y a des nobilisables? Parce qu'un jour, vous rentrez dans la liste des nobilisables et qu'on dit, voilà, Yves Bonnefoy, par exemple, aujourd'hui, en France... est un nobélisable. Jean-Marie Le Clézio l'était, il est devenu Nobel et c'est fort heureux. Pourquoi est-ce que Gao, par exemple, a été nobélisable alors que les Chinois vivant en France et puis il est devenu prix Nobel, tout le monde a oublié son nom, mais on a un Nobel français d'origine chinoise. C'est compliqué. C'est un petit jury, le jury du prix Nobel à Stockholm, et ce sont des gens qui ont des antennes un peu partout, qui font remonter des informations. Il faut que le chef de l'État ne s'oppose pas, théoriquement. On ne sait pas trop, on ne sait plus comment ça commence un jour le fait que vous soyez nobilisable, et puis comment un jour vous ne l'avez pas parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'aura pour des raisons de stratégie politique qui vous sont un peu méconnues. Puis l'année suivante, ben, ce ne sera pas vous parce que peut-être un Français l'aura eu. Et puis un jour, ça a été Camus, personne ne s'y attendait, on en avait déjà un peu parlé, et quand Camus l'a eu, modestie du personnage, il a dit c'est Malraux qui aurait dû l'avoir. Première réaction. Mais de fait, quand vous avez, enfin à l'époque, quand vous aviez le prix Nobel, vous étiez intouchable. Vous deveniez une espèce de conscience planétaire. Bon, ça n'a pas duré très longtemps chez Camus parce qu'il est mort. Que serait-il devenu? Certains ont dit, mais il était déjà mort, donc c'est pourquoi il a obtenu le prix Nobel. Mais je ne crois pas. Je pense que ça lui aurait donné une légitimité qui lui aurait permis de dire, bon, quand même, quoi. Quand même, mon père ouvrier agricole, ma femme de ménage, l'Algérie, on m'a refusé de faire des études, etc. Mais j'ai aujourd'hui le prix Nobel, donc je suis peut-être un peu plus légitime. Et quand il écrit le premier homme, bah, c'est un texte magnifique, quoi. On se dit, mais il n'est pas mort du tout. Lui, il dit, alors, je ne peux plus rien écrire, je suis à sec, je ne suis plus rien, je suis vieux, je suis nul, je suis con, je suis... moi j'ai regardé ce qu'il a fait là quand il disait qu'il était plus rien, qu'il était à sec. Il y a plein de gens qui aimeraient être à sec comme ça, quoi. Donc pas réécrire l'histoire, mais le premier roman, ça devait être un fort volume, probablement deux livres. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Je pense qu'il serait allé jusqu'à la guerre d'Algérie. Je crois vraiment qu'il serait allé jusqu'à la guerre d'Algérie et qu'on aurait eu, c'était son grand modèle, hein, Tolstoï, Guerre et paix ou Anna Karénine, et qu'on aurait eu un livre un peu Tolstoï là, avec cet ouvrage-là. On aurait compris comment Camus était devenu Camus, mais en même temps, comment l'Algérie était devenue ce qu'elle était devenue, comment les enfants pouvaient se retrouver à jouer dans les rues de Bab el-Oued après avoir eu des grands-parents ou des arrière-grands-parents arrivés, parce que pauvres, miteux, quittant la France à cause de la misère. On aurait pu comprendre probablement tout ça. Mais je pense que... la mort est arrivée. Mais le trajet de Camus ne s'est pas fait avec des institutions. Il n'avait pas l'École normale supérieure avec lui, il n'avait pas la Sorbonne avec lui, il n'avait aucun journal avec lui, il n'avait aucune coterie, sûrement pas les communistes, ça c'est clair. Les catholiques ont été assez violents avec lui, également. Et on ne peut pas dire que, à part René Char, qui n'était pas d'une grande utilité, si ce n'est affective, il fait beaucoup, mais qui n'était pas dans les réseaux, qui vivait dans le sud, en Lique-sur-Sorbe. Il n'y avait pas de copains, il n'y avait pas de tribus. À l'époque, les tribus, elles existent, on les connaît. Justement, le temps moderne s'en fait partie, le communisme s'en fait partie, les catholiques s'en fait partie, et il n'est rien de tout ça. Il est juste un solitaire. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas de plus belle onction que l'onction des lecteurs, et qu'il l'avait. Comme vous disiez, la correspondance dans les archives, il recevait des lettres de gens extrêmement modestes. Je ne crois pas que Sartre recevait des lettres de gens extrêmement modestes. Et Catherine Camus me disait que de temps en temps, quand elle prenait des taxis à Paris et que les chauffeurs de taxi savaient qu'elle était la fille d'Albert Camus, et ils avaient toujours quelque chose de gentil à lui dire. Je pense qu'il avait l'oreille du peuple, Camus, et qu'il l'a encore. Encore une question ?
Oui, bonjour. Je voulais vous dire... Je pense que vous avez évidemment raison de fustiger un petit peu la faiblesse du mouvement anarchiste, faiblesse paradoxale à la fois par rapport à la période, aux besoins, je pense. Mais en même temps, par exemple pour moi, L'homme révolté à 17 ans a été mon premier livre de pensée anarchiste. Quand je faisais des grèves au lycée, eh bien, c'est ce qui m'a fondé politiquement jusqu'à aujourd'hui, il y a longtemps. Et je voulais juste vous dire que le mouvement anarchiste, à travers l'ouvrage qu'a fait Lou Marin aux éditions Abbé d'Or, a reconnu le travail et les relations qui ont eu lieu entre Camus et le mouvement libertaire. Ça n'a pas été, comme vous l'avez dit, bien sûr, une démarche d'adhésion, mais il y a eu une démarche et des militants anarchistes non violents qui existent et qui continuent, se réfèrent évidemment à ça. Et donc je pense qu'il n'y a pas de coupure, mais il y a des faiblesses paradoxales et des... Voilà. Mais la vie, je pense que c'est en marchant et c'est pas en regardant le passé. Voilà, je voulais juste dire, savoir si vous connaissiez ce travail de compilation aux éditions Yves Aigoron.
Oui, j'en parle dans mon livre. Je m'attaque à la thèse de ce livre-là, puisque la thèse de ce livre-là, c'est de dire que c'est Rirette Maître Jean qui a fait découvrir l'anarchisme à Albert Camus. C'est ce que les anarchistes disent dans un catéchisme qu'il leur faudrait faire exposer aussi. Il faut être anarchiste avec les anarchistes, il faut être libertaire avec les libertaires, sinon on devient croyant de l'anarchie. Voilà, c'est Léo Ferré qui disait le drapeau noir, c'est encore un drapeau. Non, je ne trouve pas que ce soit Rirette Maître Jean qui est fou. Ah ben, je dis que Et donc, Lumara fait savoir qu'il a, il a effectivement découvert l'anarchie avec, avec Rire et Maître Jean. C'est fou que je montre tout ça. C'est très en amont, puisqu'il y a un oncle d'Albert Camus qui, quand il a sa tuberculose, à l'époque, on soigne la tuberculose, mais assez mal, comme vous le savez. Et à l'époque, on pense qu'un bon beefsteak, et après avoir du sang, des vitamines, etc., c'est quand même plutôt pas mal. Et il y a un oncle, qui s'appelle l'oncle Acco, et qui est boucher et qui le reçoit à la maison. Et ça a été un anarchiste, franc-maçon, lecteur de Joyce, dit-on, mais de Gide, sûrement. Donc une figure assez singulière, une espèce de boucher qui était une figure romanesque, qui lui connaît l'anarchie, qui lui connaît Proudhon, et qui en parle dès ce moment-là, c'est-à-dire 17 ans, beaucoup plus en amont que ce que dit l'ouvrage dont vous parlez. Et puis, il y a eu la découverte avec Fréminville de Proudhon. Ils sont copains, ils ont 17 ans, 18 ans, ils lisent Proudhon en même temps. Donc, c'est très en amont de ce que dit aussi l'ouvrage dont vous parlez. Et puis, il y a eu des discussions avec Jean Grenier. Jean Grenier parle de ce qu'il appelle une anarchie désespérée. Il met un trait d'union entre anarchie. Et lui parle d'une anarchie désespérée. Et il fait l'éloge, et c'est sur l'esprit d'orthodoxie, qui est un très beau livre, constitué de recueils d'articles, 36, 37, 38, donc ça parlait en 38, mais à la fin, il y a des textes de Jean Grenier sur la pensée anarchiste. Jean Grenier recevait, je vous disais tout à l'heure, Albert Camus dans sa maison. Il ne pouvait pas ne pas être question de pensée anarchiste. Donc, l'oncle Acco, Fréminville, son copain, Jean Grenier, les discussions de Jean Grenier, donc très en amont, il connaît la pensée anarchiste. Ça n'est pas parce que Rirette, qui est correctrice et qui est anarchiste, et qu'ils ont travaillé dans des journaux ensemble, que pour autant ils ont parlé d'anarchie. À l'époque, Rirette, elle soutient un peu la bande à Bono, et là, il y a des copains communs, on a retrouvé dans sa maison des objets qui auraient été volés par la bande à Bono à quelqu'un qui n'avait pas fait grand-chose. Enfin, donc, on ne sait pas trop qui est Rirette Maître Jean, sauf que je ne suis pas sûr que l'anarchie, elle ait été découverte là, à ce moment-là, par Camus. J'ajoute que dans ce texte que vous signalez, et dans le colloque qui a suivi, on a fait du football une métaphore anarchiste. Permettez que je ne sois pas d'accord sur cette idée que le football est une métaphore anarchiste. Donc je pense que, avec toute l'affection que j'ai pour le tempérament anarchiste et des anarchistes d'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu la reproduction d'un catéchisme sur Camus, avec toujours ce truc-là, il va te mettre Jean, etc. Et que ça va beaucoup plus loin. Quand vous prenez l'index de cet ouvrage-là, le nom de Varlet n'apparaît pas, par exemple. Il apparaît pourtant majeur. Oui, il y a eu un compagnonnage avec la CNT, avec les anarchistes espagnols, etc. Mais on ne parle jamais du devoir commune. On ne parle jamais de la fédération, par exemple, entre la France et l'Algérie, la fin d'Actuel 3. On ne parle jamais de ces lectures de Proudhon. J'ai parlé un jour avec Jean Daniel, qui l'a bien connu, je souhaitais à l'entendre de sa bouche, parce que je ne dis pas grand-chose, et j'ai vu dans la maison de Camus, à Lourmarin, un livre de Proudhon. Je me dis, ah super, il a lu Proudhon, et j'ai sorti, et le bouquin n'était pas coupé. Donc effectivement, c'est un livre qu'il n'avait pas lu. Et je dis à Jean Daniel, mais qu'est-ce qu'il reprochait à Proudhon? Et dans les belles formules dont Jean Daniel est capable, il m'a répondu, les Proudhoniens. Et il n'a pas tort, il y a eu chez les Proudhoniens le cercle Valois, le Georges Valois, qui est l'inventeur du faisceau, c'est-à-dire le premier mouvement fasciste français, a été Proudhonien. Proudhon a servi un cercle, et le cercle Proudhon a donné des arguments à certains pétinistes, à certains vichistes. Il y a chez Proudhon un antisémitisme qui est évident, une critique du communisme, une misogynie qui est patente, qui est évidente, donc des choses qui pouvaient plaire à la pensée de Vichy. Donc effectivement, je crois qu'il y avait chez Camus un proudhonisme vraiment, parce que tout ce qui est mutualisme, coopération, disparition des États, tout ça, il l'a pressenti. Mais il n'a pas lu, il n'a pas travaillé. Je vous disais qu'il était un dilettante sur ce terrain-là, il était un autodidacte. Je pense qu'en plus, il a souvent préféré passer des soirées avec des jolies filles plutôt qu'en compagnie d'un texte de Proudhon, pour ne pas lui donner tort, toujours. Et donc, il n'a pas travaillé vraiment beaucoup. Il faut travailler Proudhon pour savoir contre qu'est-ce que la propriété et théorie de la propriété. Il y a des choses subtiles que quand Proudhon fait l'éloge de l'État, que les anarchistes ne veulent pas entendre, mais Proudhon fait l'éloge de l'État, Proudhon fait l'éloge de la propriété, quand il parle de possession. Simplement, quand les anarchistes, ils ont aussi un catéchisme, Proudhon, qu'est-ce que la propriété, oui, d'accord, mais il y a aussi théorie de la propriété. Et quand Proudhon dit, et là je suis proudhonien en ce sens, en disant que l'État n'est pas mauvais en soi, si l'État est garanti d'options libertaires, ben, l'État est défendable. Et si la propriété, elle est ouvrière, eh bien elle devient la possession, et quand la propriété devient ouvrière, elle est défendable. Quand Proudhon explique ce qu'il appelle l'aubaine, il prend une métaphore, c'est une image, c'est une métaphore, il prend une image qui est extrêmement intéressante, les élèves comprenaient tout de suite ce que c'était que la force de travail. Il disait, mais prenez l'obélisque de Louxor, par exemple, sur la place de la Concorde à Paris. Il a fallu que 200 personnes travaillent pendant une heure pour ériger cet obélisque. Donc 200 personnes tirent avec quelqu'un qui leur explique, etc. Et Proudhon dit, imaginez un ouvrier qui va travailler 200 heures. Il n'arrivera jamais à le mettre debout, cet obélisque. Donc, il y a une force de travail qui est la force collective, et cette force de travail, elle n'est jamais payée, dit Proudhon, par le capital. Et le capital produit de l'aubaine. L'aubaine, c'est ça. C'est la force de travail qui n'est pas payée. Et Proudhon dit, mais si on paie la force de travail aux ouvriers, ils peuvent accéder à une propriété qui devient possession. Moi, je défends ça. Je défends la propriété prolétarienne, je défends la possession prolétarienne et ouvrière, je défends l'État libertaire. Parce que les hommes ne sont pas des gens gentils. C'est plein de loups, beaucoup plus que de moutons, et qu'on a besoin d'un État qui puisse dire, maintenant, on va garantir la liberté, la sécurité, ou ce genre de choses, qui sont des options libertaires possibles. Mais tout ça, c'était trop compliqué pour Camus, qui ne pouvait pas rentrer dans le détail de la pensée anarchiste, qui a pris Bakounine, qui l'a lu rapidement, qui a cherché de quoi illustrer sa thèse. C'était plutôt comme ça qu'il travaillait Camus. C'est-à-dire, plutôt que de dire, je prends l'œuvre complète, et je m'y mets vraiment, et je travaille comme ça, c'était quelqu'un qui feuilletait, qui prenait des notes, et qui cherchait chez un auteur ce qui lui permettait d'illustrer sa thèse. Sur Bakounine, c'est complètement ça. Il veut absolument montrer que Bakounine est un défenseur de la violence, et qu'il est un défenseur de la violence révolutionnaire. Et Gaston Leval, patron du Monde responsable du Monde libertaire à l'époque, fait un texte un peu agressif, puis après ils ont une correspondance, et puis Camus se retire, parce qu'il a bien compris que Leval connaît mieux Bakounine que lui, et qu'il n'a pas tout lu, donc il vaut mieux se taire, quoi. Et donc il fait retraite, Camus, mais je montre dans mon livre qu'il a tort de faire retraite. Moi j'ai fait partie de ma thèse sur Bakounine. Je connais l'œuvre complète. Et je dis, mais Bakounine, du début jusqu'à la fin, il fait l'éloge de la violence révolutionnaire. Parce qu'en gros, Leval lui dit, ouais, vous avez pris un moment dans la pensée de Bakounine, mais c'est pas toujours. Bakounine ne dit pas toujours ça, etc. Donc sur la pensée anarchiste, il y a plus à dire que ce qui a été dit. La bibliographie concernant Camus anarchiste, elle est maigrichonne. Et quand elle existe, elle reprend des lieux communs comme cela. Je vous disais, découvert de l'anarchie avec Riret de Maître Jean, et puis débat sur Bakounine avec Gaston Leval. C'est beaucoup plus général que ça. Je vous dis, la question du devoir commun, la question du Parlement européen, la question de la fédération, ça n'est jamais dans la littérature anarchiste concernant Camus, surtout pas chez Marin. Alors bien sûr que c'est bien fait parce que les textes concerne la question libertaire, il faut aller les chercher. Et c'est compliqué, l'œuvre de Camus, elle a explosé, il a fait beaucoup de journalisme, je vous disais, actuel 1, actuel 2, actuel 3, quand on a quelqu'un qui dit, bon, il est question de pensée libertaire ici, voilà un texte, on fait une anthologie, c'est toujours une bonne chose. Mais il manque des textes dans cette anthologie-là. Et il manque aussi un contenu, quoi. Il y a un vrai contenu qu'il faudrait proposer en disant, regardez à quoi cette pensée-là peut servir. Moi, c'est ma conclusion, c'est la conclusion de mon livre quand je dis il y a aujourd'hui un post-anarchisme qui est nécessaire, et le post-anarchisme, il a besoin de Camus. On ne peut pas être anarchiste aujourd'hui en allant chercher des solutions pour le 21e siècle dans des textes qui ont été rédigés au 19e. Ça n'a pas de sens de dire Bakounine a déjà tout dit, Proudhon a déjà tout dit, non, c'est pas vrai. Ils n'ont rien dit sur le génie génétique, les anarchistes, ils n'ont rien dit sur la dématérialisation des supports et Internet, et pour cause. Donc il faut s'appuyer sur la pensée anarchiste, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut détruire ce catéchisme-là. Il y a un catéchisme anarchiste, il est utile, mais pour qu'on s'en défasse. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, conservation et dépassement.